Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans Planète Business, le podcast qui explore les nouvelles frontières du leadership et de la performance humaine. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet souvent mis à côté, mais pourtant central, la psychologie d'affaires. Comment les émotions, la santé mentale et la conscience de soi façonnent-elles la réussite d'une entreprise ? Pour en parler, nous recevons une experte qui allie la rigueur scientifique à une vision profondément humaine du management. Safa El Abassi, professeure vacataire en neuropsychologie clinique et fondatrice d'El Abassi Psy Africa. Bonjour à vous et merci de nous servir aujourd'hui d'experte et de guide dans ce numéro de Planète Business.
Bonjour, merci, le plaisir est également le mien.
Alors, pour bien évidemment, avec votre permission, vous tutoyer. Alors Safa, pour commencer, quand on parle aujourd'hui de psychologie d'affaires, de quoi s'agit-il exactement et en quoi cette approche diffère-t-elle des modèles plus classiques de la psychologie du travail ?
Alors, la psychologie d'affaires est une discipline moderne qui va au-delà de la psychologie de travail classique. Donc, elle ne se limite pas dans l'analyse des risques psychosociaux. Plutôt, elle s'intéresse à la dimension stratégique de l'humain dans la réussite économique.
Et pouvez-vous nous en dire plus, justement, par rapport à cette réussite économique ?
Alors justement, la psychologie d'affaires aujourd'hui, et grâce à une approche scientifique qui combine entre la psychologie et les neurosciences, les dirigeants et leurs collaborateurs peuvent décoder le cerveau humain, comprendre ce qui se passe réellement dans notre cerveau au travail lorsqu'on est sous pression par exemple, ou bien exposé au stress, ou bien dans les moments de crise. Et sur cette base, toutes les avancées scientifiques ont démontré aujourd'hui qu'au moment d'adopter cette approche de dernière génération ne transforme non seulement pas la qualité de vie au travail ou même la prévention des risques psychosociaux, mais justement il impacte directement la productivité, le chiffre d'affaires et même les résultats de l'entreprise sur le moyen et le long terme.
Vous venez donc de parler de pression et justement on a souvent l'impression que la santé mentale des dirigeants reste un sujet tabou dans notre écosystème économique. Pourquoi ce silence persiste-t-il et surtout quel impact ce déni peut-il avoir sur la performance réelle des organisations ?
Justement, la santé mentale des dirigeants et leur bien-être restent tabous parce que l'inconscient collectif du travail associe toujours le leadership à l'invulnérabilité. Dans notre culture économique au Maroc et même en Afrique en général, le dirigeant doit être fort, solide et reconnaître une fragilité est perçue à tort comme un signe de faiblesse et de perte de contrôle et d'autorité. Et à partir de là où le déni commence et se peut qu'un dirigeant soit fragilisé dans un moment X et ne soit pas conscient. Et du coup, le silence a un coût réel justement parce qu'un leader qui s'épuise intérieurement ne s'arrête pas et finit souvent par prendre de mauvaises décisions pour garder justement sa posture même entre lui et lui-même. Et du coup, il perd en lucidité et entraîne toute l'organisation avec lui en danger et du coup le déni ne protège absolument pas l'entreprise comme il est toujours perçu inconsciemment mais plutôt il la fragilise.
Et selon vous, Madame El Abassi, en quoi le bien-être psychologique d'un leader influence-t-il la culture d'entreprise, la qualité du management et l'engagement des équipes ?
Alors, un leader est l'épine dorsale. Toute l'équipe dépend de ses choix, de ses prises de décision, de ses prises de risque et de ses calculs stratégiques. Si le leader est sous tension ou il est fragilisé, toutes les parties responsables des émotions et de la prise de décision dans son cerveau lui-même seront impactées. Notamment, je dirais bien, l'amygdale, le cortex préfrontal, l'hippocampe, ou même le cortex cingulaire. Et ce fait conduit souvent à des erreurs stratégiques qui peuvent changer toute la chimie de l'organisation, même si ce dirigeant il a derrière lui un parcours brillant ou bien il a déjà fait pas mal de succès dans son parcours professionnel et du coup l'état intérieur du leader devient toute la culture de l'entreprise.
Toute la culture de l'entreprise, aujourd'hui toujours dans le cadre de la gestion de cette entreprise, mais aussi dans la gestion psychologique. La psychologie d'ailleurs d'affaires est encore perçue comme un luxe réservé aux grandes entreprises ou bien une nécessité stratégique devenue incontournable même pour les PME et les start-up.
Déjà, il faut éliminer cette croyance erronée selon laquelle la psychologie serait un luxe dans le monde économique. Il faut savoir que le cerveau est le moteur de la productivité, de la performance et de la créativité au sein des entreprises. Aujourd'hui, on demande à nos collaborateurs de plus en plus, et même aux dirigeants eux-mêmes, d'être performants, créatifs, capables de travailler sous pression et de s'adapter aux objectifs. Et aussi de se démarquer par rapport aux concurrents, etc. Toutes ces compétences toutes ces compétences sont psychologiques. Et donc, que l'on soit une grande, moyenne ou petite structure, on a besoin de la psychologie d'affaires pour pouvoir atteindre ses objectifs et d'être productive dans les meilleures conditions tout en respectant la qualité de vie au travail.
La qualité de vie au travail qui doit être respectée. Et aujourd'hui, à quel moment une entreprise devrait-elle d'ailleurs se dire « là, il faut agir, il faut prendre soin de nos dirigeants ou bien même de nos employés ». Quels sont aussi, selon vous, les signaux qui doivent alerter ?
Alors, tout d'abord, une entreprise doit se poser des questions dès qu'elle réalise que l'aspect psychologique n'est pas intégré dans la culture. Donc ça c'est de 1. De 2, l'entreprise continue à faire des investissements techniques élevés mais son équipe n'avance pas ou même avance lentement, s'il y a une baisse d'engagement auprès des collaborateurs, s'il y a aussi des tensions internes souvent entre les équipes, c'est pas du quotidien et c'est pas normal. Aussi le manque de cohésion aussi fait partie des signaux d'alerte. Également les erreurs stratégiques répétitives, soit au niveau des dirigeants, soit au niveau des managers ou même de leur équipe, ou bien une équipe incapable de performer sous stress. Quand il le faut, ou même dans les périodes de stress, ou bien de crise, ou même quand il y a des imprévus. Et, ou bien si vraiment l'entreprise, justement, elle passe par des moments, des difficultés d'adaptation auprès de leur équipe, ou bien une équipe incapable de performer sous pression quand il le faut, ou même en période de crise. Alors, et si c'est justement l'entreprise a peine, elle peut survivre dans le quotidien normal. Alors, tous ces éléments-là, ce sont des signaux où vraiment on doit non seulement interagir, mais on doit vraiment interagir en urgence.
Interagir en urgence, je rappelle que nous sommes avec Madame Safa et Labassi, donc spécialisée dans le cadre de la psychologie, surtout dans l'accompagnement aussi du cadre professionnel des entreprises, entre autres, bien évidemment. Mais avant de revenir avec notre invité, place à votre rubrique Actualité RSE pour faire le tour de l'actualité mondiale de la RSE avant de revenir tout de suite avec Madame Safa et Labassi.
Bienvenue pour un tour de l'actualité mondiale sur la RSE. Cette dernière s'impose plus que jamais comme un pilier stratégique. Selon le dernier rapport de l'OCDE, plus de 9 entreprises cotées sur 10 publient désormais des données de durabilité, tandis que les banques multilatérales ont mobilisé un record de 137 milliards de dollars pour le financement climat. À l'approche de la COP30 au Brésil, le groupe Alstom appelle à faire du rail le socle d'une mobilité mondiale décarbonée. Et le classement Time 2025 des entreprises les plus durables confirme. Transparence, inclusion et réduction d'émissions deviennent des critères clés de compétitivité. En Afrique, la dynamique s'accélère. Un fonds panafricain vient d'être lancé pour combler le déficit de financement en santé mentale. Et la hausse des devises locales allège les pressions inflationnistes en Afrique subsaharienne. Enfin, Nairobi s'apprête à accueillir fin novembre le sommet ESG et Climat Afrique 2025, réunissant investisseurs, gouvernements et entreprises autour d'une même ambition: faire de la durabilité un moteur de développement économique. Dans ce sillage, la RSE entre dans une nouvelle ère, plus structurée, plus mesurable et surtout plus globale.
De retour avec notre invité. Alors, sans plus tarder, nous allons attaquer la suite, Madame El Abbassi. Quel lien, d'ailleurs, établissez-vous entre leadership, responsabilité sociétale des entreprises et équilibre psychologique au sommet de la hiérarchie?
Alors, quand le leadership est aligné et que le bien-être au travail au sommet est préservé, bah, cela se reflète sur les collaborateurs, la culture interne et puis sur l'impact de l'entreprise justement sur la société et également l'impact de la société, de l'écosystème sur les dirigeants en général. Bah, justement, tout cela, il se traduit justement au niveau de la prise en charge psychologique soit des dirigeants ou bien de leurs collaborateurs et cela transforme l'écosystème interne en entier parce qu'elle agit justement à la source. Et donc, puisqu'on a un leader et ses collaborateurs, bah, s'ils sont alignés, apaisés, bah, justement, ils seront clairs au niveau de leur stratégie et leurs décisions, et bah, ils diffusent justement une culture plus saine et plus sûre. Et cela, justement, réduit les tensions, améliore justement la stabilité mentale qui va au-delà de la stabilité technique et financière et se traduit directement par une meilleure lucidité, un climat de travail qui favorise l'innovation et la croissance durable sur le long terme.
Et passons donc du tangible au concret. Quelles actions tangibles, d'ailleurs, les entreprises peuvent-elles, selon vous, intégrer dans leur stratégie RSE pour soutenir la santé mentale et renforcer le leadership durable de leurs dirigeants et aussi managers?
C'est très important d'intégrer la culture et la science en général dans la stratégie de la responsable sociétale, ainsi que les entreprises devraient réaliser des diagnostics ou bien un diagnostic psychosocial collectif complet au moins une fois par an. Ensuite, mettre en place des formations sur mesure et personnalisées selon les besoins ou bien sur la base des besoins de leur équipe. Et bien évidemment, il est essentiel également de renforcer la phase de recrutement à l'aide des tests psychotechniques pour mieux choisir les profils capables de s'intégrer au sein de l'entreprise, justement pour grandir et mieux s'intégrer aussi, de démontrer des résultats sur le long terme.
Et justement, aujourd'hui, pouvez-vous partager quelques exemples ou bonnes pratiques au Maroc ou ailleurs où un accompagnement plutôt psychologique des leaders a vraiment eu un impact positif sur l'organisation?
On travaille sur l'aspect cognitif et émotionnel à la fois, parce que les entreprises qui accompagnent psychologiquement leurs dirigeants et leurs collaborateurs constatent des effets mesurables, une baisse de turnover, amélioration de la prise de décision, une nette amélioration de l'engagement des équipes. Et tout cela, vraiment, ce n'est pas que de la théorie, mais c'est vraiment observable dans les chiffres. À chaque fois, on essaie de faire un suivi tous les 3 mois ou bien tous les 6 mois. Et vraiment, on pourrait non seulement faire un impact, mais justement transformer toute l'entreprise ou bien toute l'organisation, où on pourrait vraiment voir à quel point il est distingué par rapport à ses concurrents sur le marché.
Concurrents à ses marchés plutôt, la responsabilité donc sociétale des entreprises, c'est aussi un accompagnement psychologique. Et c'est ce que nous avons tenté d'essayer d'expliquer pour permettre bien évidemment aux professionnels de pouvoir bien évidemment avoir la possibilité d'avoir cet accompagnement tant pour la réussite de l'entreprise, mais aussi pour la responsabilité sociétale des entreprises. Et pour en parler, nous avons reçu aujourd'hui Madame Safa El Abbassi, professeure vacataire en neuropsychologie clinique et fondatrice de El Abbassi Psy Africa. Merci encore, Madame El Abbassi, de nous avoir servi aujourd'hui d'experte dans ce domaine, notamment ces thématiques assez importantes dans l'évolution aujourd'hui de la responsabilité sociétale des entreprises et également dans le business des entreprises.
Merci à vous.
Merci également à vous, chers amis auditeurs, pour la confiance en nous voler. Rendez-vous est pris pour un prochain numéro, toujours dans votre émission Planète Business.